Il y a quelques jours se sont achevés à Sotchi, en Russie, les Jeux paralympiques. Je dis bien paralympiques. Et certains des exploits de ces athlètes marqués à vie, pour certains, ont forcé l'admiration bien plus encore que ceux qui les avaient précédés avant. Et c'est admirable, les efforts et aussi la persévérance, le courage qu'ils ont manifesté à cette occasion-là. Et cela m'a mis en mémoire un récit connu, et sans doute vous devinerez de quel récit de la vie de Jésus, qui traite d'un problème qui se rapproche de celui-là et dont l'importance justifie qu'il est relaté par les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. C'est l'histoire d'un homme handicapé, il faut bien dire le mot, marqué à vie que la rencontre avec Jésus a transformé et a rétabli dans tous ses moyens. Alors je vous invite à réécouter ou à suivre dans vos Bibles, c'est page 1004, dans les Bibles qui sont par-devers vous, page 1004, j'ai cherché ce qu'en écrit Luc au chapitre 6. Un autre jour de sabbat, au verset 6, Jésus entra dans une synagogue et se mit à enseigner. Un homme s'y trouvait, il avait la main droite paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat, car ils voulaient avoir une raison de l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit alors à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là, devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint là. Puis Jésus leur dit, « Je vous le demande, que permet notre loi ? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal ? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire ? » Il les regarda tous et dit ensuite à l'homme, « Avance la main. » Il le fit et sa main redevint saine. Mais les autres furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pouvaient faire à Jésus. Alors c'était un jour de sabbat, et juste les versets qui précèdent nous disent que les disciples passaient le long d'un champ de blé, ils avaient faim. Alors ils ont cueilli quelques épis, les ont froissés dans leurs mains, puis les ont mangés. Or c'était un jour de sabbat. Et les pharisiens, quelques pharisiens témoins de la scène, furent scandalisés de cette violation évidente du repos sabbatique. Et ils le font remarquer à Jésus. Mais ce n'est pas tant les disciples que Jésus visait que les disciples qu'il visait par leurs reproches. C'est leur maître. Et ils aimeraient bien le prendre lui aussi en flagrant délit de transgression de la loi, afin de pouvoir le discréditer, lui qui avait tellement d'audience auprès de la foule. Il voulait surtout que cette admiration pour lui, cet enthousiasme qui à ce moment-là se manifestait en sa faveur, éclate. Et voici une occasion inespérée. pour prendre Jésus en défaut. C'est le jour du sabbat que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue pour prier, pour enseigner, pour lire la Torah. Ici, il s'agit de la synagogue de Capernaum. Et la foule, avide de l'entendre, était là, se presse dans la salle. Mais parmi les auditeurs, il y en a un. Assis, couché, on ne sait pas, mais il y en a un, au fond de la salle. Et tout devant, premier rang, je ne parle pas pour ici, je parle de là-bas, se tenaient quelques pharisiens, scribes et autres docteurs de la loi. Ils sont venus pour écouter, pour observer Jésus, afin de pouvoir l'accuser, le juger et déjà le condamner. Alors nous allons passer successivement en trois points d'une situation dramatique à une parole de Jésus pour nous arrêter plus longuement au geste qui sauvera cet homme et condamnera les chefs du peuple. Situation dramatique. Ces notables en Israël, ces hommes hostiles, ont reçu une éducation exemplaire. On leur a enseigné à observer et surtout à faire observer la loi par les autres. Et Jésus ne manquera pas de le leur dire. Ce sera leur viatique, faire observer la loi. Ce sont des pratiquants de la meilleure espèce. Ils n'ont rien à se reprocher, mais tout à reprocher aux autres, qu'ils jaugent avec un mépris condescendant des pauvres. Ils sont convaincus d'être du bon côté, eux. Hommes de religion, ils pensent que les pratiques religieuses dispensent de tout mouvement du cœur, et en particulier de l'assistance au prochain, surtout un jour de sabbat. Et ils ont fait de l'observance stricte du repos leur cheval de bataille, et c'est sur ce terrain-là qu'ils veulent entraîner Jésus, car pensent-ils, c'est là qu'il est vulnérable, c'est là qu'il va tomber dans leur piège. Et à ces interprètes farouches de la loi, dont ils ont fait un carcan insupportable, Jésus va poser un problème. Il va déjà leur poser cette question vraiment embarrassante que nous rapporte Matthieu. Si l'une de vos brebis tombe dans un trou un jour de sabbat, vous iriez bien la chercher? Ah, ils ne répondent rien, parce qu'ils craignent une de ces réponses cinglantes de Jésus, dont plus d'un d'entre eux avait déjà été marqué. Donc, ils ne disent rien, mais bien sûr qu'ils vont la chercher. La brebis qui est tombée au fond du puits un jour de sabbat, ne serait-ce que pour sa valeur marchande. Ah oui, mais porter secours à un pauvre homme blessé par la vie ce jour-là, jour de sabbat, c'est inconcevable. Il n'a aucune valeur à leurs yeux. Vous qui prétendez respecter la loi, vous en bafouez l'un des plus grands commandements. Tu aimeras ton prochain. C'est cela, respecter la loi, toute la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, il est là précisément, au fond de la salle, pour que on s'occupe de lui. il y a quelqu'un qui a besoin aujourd'hui qu'on s'occupe de lui jour de sabbat. Qui est cet homme? On n'en sait rien. Il n'est rien dit de lui. Sa silhouette est discrète et devenue celle de l'homme à la main paralysé de la synagogue, ignoré comme un objet banal auquel on ne prête plus attention. Les évangiles ne le nomment même pas. Comme l'aveugle Bartimée, par exemple, ou Simon le lépreux, par exemple. Point de nom. Anonyme. Il est de façon anonyme l'homme à la main paralysée. Et le détail est flagrant. La main droite, précise Luc, c'est bien lui, le médecin, qui remarque cela. Et c'est important. Jésus va répondre au travers de quelqu'un d'insignifiant pour quelqu'un quantité négligeable, ni vu ni connu. Alors Jésus a parcouru l'assemblée, il nous a dit, et puis il voit cet homme. Et au grand dam, à la stupéfaction de ses auditeurs, il interrompt le culte, il s'arrête. Alors que les autres ont soif de l'entendre. Non, s'arrête le culte public pour s'occuper de cet homme. Il prend le temps. Il prend le temps de le voir. D'arrêter son enseignement alors que son auditoire avait un besoin évident d'entendre son message. Et ce que Jésus fera dans quelques instants est si important que les évangélistes oublient même de dire de quoi il parlait. C'est son geste qui est important. Il suspend l'urgence pour prendre le temps de la rencontre au risque de contrarier tout le monde. Alors, où est-il donc celui que je ne vois pas et qui est là? À mon côté, peut-être, pas ici, mais je ne le vois pas de peur, peut-être, et sans doute, de devoir le voir autrement que je l'imagine, que je me l'imagine, que je me suis fait de lui, l'image que je me suis fait de lui. Vous vous souvenez sans doute de cette anecdote tibétaine que j'ai déjà racontée une fois. C'est l'histoire d'un homme qui est parti en montagne le soir, là où les ombres descendent, les formes deviennent menaçantes et l'angoisse commence à prendre. Au loin, il aperçoit une bête. Peur. Quand il s'approche, il voit que c'est un homme, et quand il est devant lui, il voit que c'est son frère. Et oui, il y a une façon de voir, et Jésus ne passe pas en passant, sans un regard pour l'autre. Et il reconnaît parmi cette silhouette laissée pour compte son frère. Et la principale qualité d'un médecin en présence d'un malade est Jésus. Est un bon médecin. La principale qualité, c'est de faire un bon diagnostic. Le reste vient après. Ce n'est pas la main seulement de cet homme qui intéresse Jésus. C'est lui, l'homme qu'il veut guérir. Et au-delà de son infirmité, il décèle son manque, sa souffrance profonde. Alors Jésus prend le temps de s'occuper de lui malgré les risques qu'il court. Et quels risques ! Et on le verra bientôt. Le risque mortel, le risque qu'il court d'agir tout simplement un jour de sabbat. Jésus prend le temps. Et voyez-vous, c'est lui qui prend l'initiative. C'est assez remarquable. Il n'a pas toujours besoin de le lui demander pour que Jésus intervienne spontanément de sa propre autorité. Vous avez remarqué que le malade ne demande rien, quoi que ce soit. Et Jésus l'interpelle devant tous. Et si pour Jésus, c'est une occasion admirable de montrer sa puissance, sa force, son amour, pour les pharisiens, c'est une occasion inespérée de le piéger. Et il dira, ou il a dit, parce que c'est Marc qui nous rapporte cette phrase, que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et que lui, Jésus, est le maître du sabbat. La loi, la doctrine passe après la vie. Alors Jésus s'adresse directement à cet homme, une parole d'autorité, c'est notre deuxième point, directement. Et regardant l'homme, il lui dit, lève-toi. Ne reste pas assis dans ton coin, résigné, lève-toi pour un nouveau départ dans la vie. Espère, crois en moi, crois-moi, lève-toi. Jésus lui demande un geste vraiment difficile à accomplir, car se lever, comme s'engager pour lui, ce que vous avez fait tout à l'heure, beaucoup d'entre vous, la grande majorité, c'est croire. Se lever, c'est croire en Jésus. S'engager pour lui, le reconnaître devant tous. Et par là même, prendre le risque d'être raillé, rejeté, chassé de la synagogue, mis au banc de la société. Mais l'homme a choisi son camp. Lève-toi, ton obéissance, ton choix sera le signe, en fait, de ta foi. Et de la confiance que tu me portes. Lève-toi. L'homme prend Jésus au mot, au grand scandale des pharisiens. Stupéfait de ce sans-gêne, l'homme se lève, sans doute mal à l'aise. Mais s'il ne comprend pas où Jésus veut en venir, même en l'absence de signes visibles qui lui redonneraient de l'espoir, il se lève parce qu'il a été touché par une parole de Jésus, une parole d'autorité, une parole qu'il a pris au sérieux. Pour lui se lever, c'est montrer sa foi. Pour lui se lever, sa foi est bien de celle que Jésus se plaît à honorer. Et qui dira plus tard, l'image m'a toujours frappé, est capable de déplacer des montagnes. Et Jésus ajoute, lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Avance, au milieu. On ne va pas dire, reste là-bas, hein, je m'occupe de toi. Non, non, tu avances au milieu. Comme ceux qui ici, passe par les eaux du baptême, leur dit de venir là, pour que tout le monde les voie, ce qui est quelquefois difficile. Enfin, il faut que tout le monde te voie. Donc tu viens là, sors de ton anonymat, car je t'ai reconnu. Et être reconnu, c'est déjà être aimé. Et tu es important à mes yeux, dit Jésus. Et quand Jésus s'occupe d'un de ces petits qui n'intéresse personne, il le met au centre, quitte à déplacer ceux qui s'y étaient mis. L'homme avance avec courage, bravant les préjugés, le ridicule, et comme David était autrefois le champion d'Israël qui s'avançait vers Goliath, ici, notre homme devient le champion de Jésus, le témoin. Et alors, il va relever le défi. Et alors qu'il se trouve au milieu de cette foule étonnée, Jésus lui dit encore, « Étends ta main, étends ta main. » Alors là, c'est trop. Tu sais bien que je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire. J'ai essayé, bouge pas, je n'y arrive pas. C'est justement là mon problème. Jésus insiste, étends ta main. Jésus demande l'impossible. Tends vers Dieu, ce qui ne va pas dans ta vie. Dis-le-lui simplement. Présente-lui ce qui te paralyse. Parole s'adresse encore à nous. Étends ta main et il le fait. Et sa main prend vie. Est transformé par la puissance d'une parole, suivie par un acte d'obéissance. Voilà l'étonnante sobriété. Trois mots. Lève-toi, étends ta main. Quatre mots. Sobriété avec laquelle l'Évangile raconte l'œuvre de Dieu dans une vie qui s'ouvre à sa parole. Malheureusement, notre récit ne s'arrête pas là, et c'est notre troisième et dernier point. Le geste qui a sauvé cet homme a condamné par ses conséquences les pharisiens. Une parole au geste, aux effets ambivalents, dirions-nous, contradictoires. Car cet homme est là, debout, un jour de sabbat. Pour ces docteurs de la loi, c'est inadmissible, scandaleux, c'est trop. L'exercice de la médecine, un jour de sabbat, est illégal. Jugement bien superficiel qui met un homme, qui met en fait en lumière ce qu'ils sont vraiment, ces hommes. Aux bonnes manières, bien éduqués, cultivés, ne sont que des propres justes, au cœur dur, sépulcre blanchi, va leur dire Jésus, c'est pas tendre. Et Marc nous dit que Jésus s'en attriste profondément, il n'est pas en colère. Il s'en attriste pour eux, profondément, Marc le précise. Derrière leur masque se cachent des intentions criminelles. Alors, remplis de fureur, nous écrit Luc, ils se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire contre Jésus. Et Matthieu est plus précis, ils se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Ceux qui refusent à Jésus de faire le bien un jour de sabbat choisissent ce jour-là pour comploter un meurtre. Et ces hommes, aveuglés par la jalousie et malgré, ou plutôt à cause du miracle, car c'est un miracle dont ils ont été les témoins, refusent l'intrusion de la vie dans leur existence à eux, et vont s'incruster dans l'endurcissement être progressif, mais inéluctable, qui les conduira jusqu'au crime, à la mort de Jésus. Hélas, à leur propre mort éternelle. Jésus s'en attriste. Il signe là leur condamnation. Mais cette fin tragique n'est pas la leçon essentielle de notre texte. Nous allons essayer d'apporter un peu de lumière. Revenons aux quelques mots rares adressés par Jésus à celui qu'il vient de guérir. Et si Jésus nous disait à nous, lève-toi et tends ta main. Lève-toi dans ton milieu favorable ou non, favorable ou hostile, malgré les risques que ton geste comporte, malgré un fardeau trop lourd à porter. Des fois, difficile de se lever quand le fardeau est trop lourd, difficile à partager. Lève-toi signifie alors relève-toi. Et l'ordre de Jésus est un véritable défi lancé contre les poids, les pesanteurs qui nous tirent vers le bas. Laissez-moi encore vous redire cette histoire tzigane. Un homme rêve. Il porte sur son dos un énorme sac. Et il traîne. Il traîne sur sa route. Il est obligé de s'arrêter. Alors, dans son rêve, un ange vient vers lui et lui adresse la parole en se disant, mais comment ça se fait? Tu portes un sac trop lourd pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Montre-moi. Alors il ouvre le sac, il n'y a rien dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac? Mes peurs. Mes peurs d'hier, mais c'est vrai, elles sont déjà passées, donc elles ne sont plus dans le sac. Mes peurs de demain, mais elles ne sont pas encore là, donc elles ne sont pas dans le sac. Alors l'ange lui conseille... La peur de demain, elle n'est pas encore là. Il lui dit, celui qui est écrasé sous le poids des peurs d'hier et de demain ne peut pas se relever. Jette donc ton sac, lève-toi et vis ta journée d'aujourd'hui, 30 mars, aujourd'hui. Ainsi fit l'homme, il reprit sa route avec entrain. Et vous vous souvenez sans doute, parce que vous avez tous fait beaucoup de montagnes, il y a des montagnards parmi nous, que quelquefois, quand le chemin monte, ben, tout d'un coup, on est essoufflé. On n'en peut plus, on s'arrête, et puis le soir approche, alors on se dit, il faut vraiment que je rentre avant la nuit. On reprend la marche. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors, en reprenant la marche, les forces reviennent et permettent d'aller jusqu'au bout. Or, c'est bien le cas. Quelquefois, la fatigue se dissipe et l'on découvre avec surprise qu'on a récupéré, qu'on a reçu des forces insoupçonnées. Encore une citation, je suis persuadé, a écrit Dietrich Bonhoeffer, je pense que vous le connaissez tous, en tout cas je vous invite à lire ce qu'il a écrit peu de temps avant son martyr à Buchenwald. Je suis persuadé, c'est lui qui écrit cela, que Dieu me donnera la force pour rester debout. C'est vrai. Mais il ne la donne pas à l'avance. De peur que je ne compte sur mes propres forces reçues de lui et non pas sur lui seul. Quel exemple! lève-toi. Il se peut que Dieu utilise aujourd'hui sa parole ou le propos de l'un ou l'autre pour nous dire ces petits mots, lève-toi. Parce que Jésus nous a donné des compagnes et des compagnons de route pour qu'ensemble nous mettions à marcher. Même à courir, comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, vous pouvez retrouver ça au chapitre 12 et au verset 2. Courir dans la carrière qui nous est ouverte sur cette route nouvelle et vivante que Christ lui-même a inaugurée pour nous, ayant les regards fixés sur lui, qui en vue de la joie qui lui était offerte a souffert la croix. Puis s'est assis à la droite de Dieu. Pensons à lui, à celui qui a supporté une telle opposition de la part des hommes. On a vu un exemple aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas lassés, l'âme découragée. Lève-toi et tends ta main. Alors cette main fatiguée, chargée ou vide, sèche, immobile, étend ta main. Pour l'homme à la main sans vie, la guérison fut immédiate. Pour d'autres et beaucoup d'autres, c'est plus long. Et quelquefois bien différent de ce que l'on a demandé, ce que d'autres ont demandé pour nous dans la foi, avec insistance, avec ferveur. Et vous rappelez sans doute cette parole de Jésus à Pierre. Ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu le comprendras. Et effectivement, Pierre l'a compris plus tard. Et c'est vrai que ces réponses-là sont quelquefois déroutantes, mais ce que nous pouvons affirmer avec force, c'est qu'elles correspondent à un plan bienveillant de notre Dieu. Il a un plan pour chacun, et ce plan est un plan bienveillant, même si c'est notre projet. Bien des questions ne s'éclairciront que dans l'aboutissement de ce plus tard ultime de notre rencontre avec Dieu. Que viendrait faire la grâce et la foi dans des situations toujours explicables? Où serait la grâce? Où serait la foi? Si nous comprenions tout. Un peu de temps encore, écrivait saint Augustin, un peu de temps, et il ne restera plus rien à comprendre, plus rien à demander, plus rien à désirer. Et vous vous souvenez sans doute du témoignage de cette femme remarquable, j'ai oublié son nom, mais j'ai oublié ses paroles, qui a passé sa vie à attendre la délivrance. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses, il m'a donné l'infirmité pour en faire de meilleures. J'ai vu se déchirer les liens de la tendresse humaine, mais j'ai appris la force de l'amour que rien ne peut détruire. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé, mais Dieu m'a donné au-delà de tout ce que j'ai pu espérer. Il nous faut conclure de vrais miracles. C'est un miracle. Ce n'est pas que cet homme ait été guéri, mais c'est que Jésus se soit arrêté à la porte de sa vie avec sa parole. Jésus parle et cela suffit. Encore faut-il l'écouter. Situation dramatique, métamorphosée par une parole aux effets contradictoires. C'est vrai, mais le plus grand des miracles, ce n'est pas que cet homme ait été guéri, c'est que Jésus se soit arrêté à la porte de sa vie avec sa parole et que cet homme l'a reçu. Jésus parle et cela suffit. Pour nous aussi. Et que Dieu nous rende capables d'entendre, comme autrefois Israël, le message que l'Éternel adresse par Ésaïe à son peuple. C'est l'Éternel qui parle. Ésaïe 35. Fortifiez vos mains languissantes. Elles le sont peut-être aujourd'hui. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez rien, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Quelle promesse! Quel futur! Quelle perspective! Et je dirais, encore plus, quelle espérance! Quelle espérance apte à illuminer dès aujourd'hui, notre quotidien. Amen.